Bonjour, bonjour à tous, c'est le début de la semaine et nous sommes mardi. Les deux sont possibles, nous espérons que vous avez passé une bonne fin de semaine avec la fête du travail. Je ne suis pas tout seul dans le studio, bien évidemment non, j'ai à mes côtés Jean-Charles Algan et Yves-Olivier.
Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous deux. Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Reposé.
Ce bon matin.
En forme?
Oui, 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 la grande forme.
Vous avez bien profité de... Oui, c'est ça, de l'orage hier. Il y a eu des petites éclaircies quand même, il fallait sortir au bon moment. Et quels sont les sujets du jour, Jean-Charles?
Alors, je vais faire un petit condensé, plutôt un concentré de tomates, que c'est drôle. Je veux parler de vin de tomates et d'une petite traditionnelle tomatina. Si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler en deux mots. Et puis, les enfants vous gâcheront toujours vos vacances. Vos enfants vous gâcheront toujours vos vacances, je vous préviens. Et, et puis, la Cité du Vin à Bordeaux passe le cap du million de visiteurs. Voilà.
Très bien.
Si on a le temps, je ferai d'autres petites brèves.
De votre côté, Yves-Olivier, où partons-nous?
On commence par des nouvelles de la santé, avec les résultats prometteurs d'un vaccin contre le VIH. Ensuite, on parlera de la hausse de CO2 dans l'atmosphère qui réduit les qualités nutritives des aliments. Si on a peu de temps, on parlera de Colin Kaepernick, un ancien joueur de football américain qui est le visage d'une campagne publicitaire de Nike. Et peut-être donc du pianiste Randy Weston, qui est mort récemment, un pianiste de jazz, géant de la musique classique africaine-américaine.
Très bien. De mon côté, comme d'habitude, eh bien, des insolites, des choses étonnantes, avec pas mal d'animaux aujourd'hui. Le hasard fait ainsi les choses parfois. Nous parlerons par exemple d'un dauphin qui a embêté tout un village avec ses agissements dans la mer, un dauphin. Également d'un requin, ça c'est un peu plus dangereux, mais un requin qui a passé un sale quart d'heure avec un homme, un nageur qui ne l'a pas ménagé. Également de pigeons voyageurs qui voyageaient en train. Tout ça c'est dans quelques instants dans les voies de service.
Qui commence ? Vin de tomate quand la tomate remplace le raisin. À coup sûr, il fait froncer les sourcils du vin de tomate, un délire venu d'Italie. Que nenni ! Un nectar issu d'une histoire familiale amorcée en Belgique et concrétisée ici au Québec et qui fait aujourd'hui beaucoup parler de lui. Les origines de ce vin peu commun sont enracinées en 1938, quand l'alchimiste belge Omer Misch, récoltant des tomates à ne plus savoir qu'en faire, tente de les vinifier. Il tâtonnera des années durant. Il n'a jamais vu le bout du tunnel et je lui ai promis de continuer ce qu'il avait commencé, se souvient Pascal Misch, son arrière-petit-fils, installé au Québec depuis 30 ans. Promesse tenue, en perfectionnant la technique de vinification et en égrenant l'infinie variété de tomates existantes avec une préférence pour celles importées par les pionniers, il parvient à trouver son Graal, à partir d'un assemblage de 6 sortes de tomates bien précises. Après divers bras de fer avec la SAQ et la régie des alcools, des courses et des jeux pour faire reconnaître et distribuer son produit, baptisé Omerto, celui qui est aujourd'hui président du domaine de la vallée du Bras à Baie-Saint-Paul cultive 6000 plants dont il extrait 120 000 litres annuellement. Voilà pour l'histoire. Mais la question cruciale demeure en suspens. Qu'est-ce que ça goûte? Plusieurs sortes de vins ayant été mises au point, il en résulte une réponse à géométrie variable. Tout d'abord, l'omerto sec, qui présente quelques parentés avec le porto, s'en distingue par davantage de vivacité et d'amertume. Il va avoir un côté agrume, xérès, saké ou grappa, suggère Pascal Misch, qui le recommande avec des sushis, des huîtres, des plats asiatiques ou indiens à base de gingembre. Sa robe jaune dorée est très agréable à l'œil, mais son acidité et sa finale franchement amère ne feront pas forcément l'unanimité parmi les dégustateurs. La version moelleuse, elle, flirte avec la fleur d'oranger, le litchi ou le melon miel, des notes qui s'accorderont plutôt avec des fromages ou, côté sucré, le chocolat blanc. Il est souvent comparé au Pinot des Charentes. Ces deux Omerto, commercialisés à $24,70 pour 375 ml dans certaines SAQ, affichent 16% d'alcool et doivent être servis à 4 degrés. Celsius. Cela dit, nous avons trouvé le sec plus agréable à température ambiante. Et les accents de tomate, totalement absents en bouche. De même que le vin ne goûte pas le raisin, l'omerto, ne goûte pas la tomate, illustre son créateur. Il en veut pour preuve l'anecdote suivante. François Chartier a fait déguster à l'aveugle la boisson à 400 sommeliers japonais, parmi lesquels aucun ne parvint à mettre le doigt sur cette saveur. Notez qu'il existe également un demi-sec élevé en fût d'acacia, ainsi qu'un moelleux passé en fût de châtaignier et cerisier, jouant plutôt dans la cour aromatique du whisky, du cognac ou de l'armagnac, mais offert uniquement au domaine. Oserez-vous le vin de tomate? C'est la base de la cuisine, tout le monde connaît la tomate, mais jamais sous cet angle, ni avec ses arômes, plaide M. Mich. Bon, à propos de recettes et cocktails, il y en a pas mal qui sont à disposition. C'était donc le vin de tomate quand la tomate remplace le raisin. Mais je vais continuer avec une petite brève qui s'appelle « Des milliers de personnes prennent part à la traditionnelle tomatina ». Savez-vous ce que c'est la tomatina, messieurs? Vous savez. Il y en a qui ne savent pas. Alors, des milliers de personnes se sont battues à coups de tomates mercredi lors de la traditionnelle tomatina à Bougnols, dans le l'est de l'Espagne. Alors, pendant une heure, les participants, pour la plupart vêtus d'un simple maillot de bain et de lunettes de natation, se sont envoyés des tomates à la figure, se vautrant dans une épaisse couche de pulpe rouge. L'événement, qui fête son 73e anniversaire, revendique le titre de plus grande bataille de nourriture au monde. Née en 1945 d'une bagarre de jeunes sur un marché, la tomatina attire désormais tous les ans des touristes venus de l'Angleterre jusqu'au Japon, dans cette petite ville à 40 km. De Valence. Alors j'en ai vu des extraits, c'est effectivement la pagaille, mais c'est ça. Il faut être bien accroché parce qu'ils sont même accrochés dans une remorque pour pouvoir ne pas tomber dans le jus et éventuellement se noyer dans le jus. Voilà, c'était la tomatina.
Une pagaille à cause de tomates, et la pagaille peut parfois être causée par des animaux aussi. C'est le cas de cette histoire avec ce dauphin qui sème la zizanie, presque la terreur. Un maire a restreint la baignade sur les plages de son village en Bretagne en raison de la présence d'un dauphin solitaire en rut, pouvant constituer un risque pour les baigneurs et les plongeurs. Au vu de la présence exceptionnelle d'un dauphin solitaire dans le secteur de Port-Maria, des risques qui en découlent et de l'avis des spécialistes des mammifères marins recueillis, la baignade et la plongée sont interdites sur le littoral de la commune dès que la présence du dauphin est avérée, a écrit le maire de Landevennec dans le Finistère, en France. Roger Lars, dans un arrêté pris le 20 août, est consulté par l'AFP. De même, l'approche volontaire à moins de 50 mètres du dauphin est interdite, précise ce texte. L'interdiction ne concernant toutefois pas les personnes accréditées par le ministère de l'Environnement au titre du suivi des mammifères marins. Selon plusieurs médias, ce dauphin solitaire de 3 mètres de long tout de même s'est établi il y a plusieurs mois dans la rade de Brest, entre plusieurs communes dont Plougastel d'Aoulas, Lagona d'Aoulas et Landevennec. S'approchant des côtes et recherchant le contact avec les humains, il faisait au départ le bonheur des baigneurs qui l'ont surnommé Zafar. Mais aujourd'hui, en rut, il se frotte un peu trop près aux embarcations et surtout aux baigneurs, inquiétant le maire. J'ai pris cet arrêté pour préserver la sécurité des personnes. Plusieurs baigneurs ont eu très peur. Il a même soulevé une baigneuse jeudi dernier avec son nez, a expliqué Roger Lars au quotidien Ouest France. Sans vouloir faire mal, un coup de la nageoire caudale peut faire beaucoup de dégâts, a de son côté expliqué le journal Le Télégramme par un spécialiste des mammifères marins. Mais un avocat au barreau de Quimper, Ervan Le Cornec, a déclaré à l'AFP vouloir déposer un recours devant le tribunal administratif de Rennes contre cet arrêté excessif. Combien y a-t-il eu d'accidents avec un dauphin en Finistère depuis que les deux espèces, dauphin et humain, cohabitent? Aucun, a-t-il écrit dans un communiqué, jugeant qu'avec un tel arrêté, le maire veut faire passer un dauphin pour une bête presque féroce, totalement imprévisible, susceptible de noyer les gens et va transformer l'approche légitimement positive que les gens ont des dauphins en une peur de ces animaux intelligents. Selon Maître Le Cornec, à ce régime-là, à l'approche par un piéton d'un chien, même tenu en laisse, tous les maires du Finistère et même de France devraient prendre un arrêté interdisant la circulation piétonne en ville. C'est la pagaille dans la mer et dans les tribunaux à cause d'un dauphin.
Comme je disais à mes compères, sans aucune transition, résultat prometteur d'un vaccin contre le VIH. C'est un texte d'Alain Labelle qui date du 9 juillet 2018. Un vaccin anti-VIH dit Mosaïque qui a le potentiel de protéger les gens contre toutes les souches du virus a donné des résultats prometteurs dans une série de tests réalisés sur les humains et sur les singes rhésus. Les présents travaux publiés dans la revue médicale The Lancet ont montré que ce vaccin expérimental contre le VIH1 a été bien toléré et a généré de bonnes réponses immunitaires chez 393 adultes de 18 à 50 ans en santé provenant d'Afrique, de Thaïlande et des États-Unis. Le traitement a aussi produit une réponse du système immunitaire anti-VIH chez les singes rhésus. D'autres tests sont en cours afin de déterminer si la réponse immunitaire produite est suffisante pour prévenir l'infection au VIH. Malgré les nombreux progrès réalisés dans le traitement, il n'existe toujours pas de remède contre le VIH. La mise au point d'un vaccin préventif pourrait, selon les chercheurs, mener à son éradication. Le présent vaccin est l'un des 5 concepts expérimentaux de vaccins contre le VIH1 qui ont mené à des essais d'efficacité chez l'humain depuis l'apparition de la pandémie il y a 35 années. Les précédents vaccins contre le VIH ont été testés dans des régions spécifiques du monde. Dans cette étude, le chercheur Dan Barouche de l'école de médecine de l'Université Harvard et ses collègues de plusieurs établissements d'enseignement à travers le monde ont pris des morceaux de différentes souches du VIH et les ont combinés dans le but de déclencher des réponses immunitaires contre une grande variété de souches de VIH. L'objectif était de définir le dosage optimal pour passer à des essais cliniques d'efficacité. Les deux principaux obstacles à la création d'un vaccin sont le nombre élevé de souches du VIH et la capacité de celui-ci à muter rapidement pour échapper aux attaques du système immunitaire. Les essais actuels visent à améliorer les performances de l'essai RV1447 réalisé en Thaïlande et qui a montré une protection modeste de 31%, un pourcentage jugé trop faible pour que le vaccin soit utilisé régulièrement. D'ici là, il existe actuellement une façon d'éviter le virus, la prophylaxie pré-exposition, PrEP, qui est prescrite aux personnes non infectées mais hautement exposées au VIH. Mais contrairement au vaccin, celui-ci doit être pris régulièrement pour prévenir l'infection. Et je conclurai avec quelques petites statistiques. Selon les estimations nationales, environ 75 500 Canadiens vivaient avec le VIH à la fin de 2014. Et enfin, à l'heure actuelle, 37 millions de personnes vivent avec le VIH-SIDA sur la planète. Pas moins de 1,8 million de nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2016.
Cowboys, dinosaures et voies lactées. Plate, la Saskatchewan, géographiquement peut-être. Mais entre les fossiles et les triceratops, les troupeaux de bisons sauvages et les splendeurs naturelles à perte de vue, le parc national des prairies pourrait nous faire voir cette province centrale du pays comme vous ne l'imaginez pas. Niché non loin de la frontière du Montana, c'est encore un secret bien gardé avec moins de 12 000 visiteurs par année. Voici 5 excellentes raisons de le découvrir. Alors, découvrir les fossiles de dinosaures, je vous passe les détails. Jouer au cow-boy au Parc national des prairies. Et admirer les bisons sauvages qui sont maintenant réimplantés depuis 2005. Contempler la Voie lactée parce que le ciel est plus noir que noir là-bas. Et vivre la grande aventure en explorant les sentiers de l'avant et de l'arrière-pays. sac à dos. C'est absolument de toute beauté. C'était ne pas rater la Saskatchewan.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
Nafs al-shams tashru alayya.
Até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande vue nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Arrêtez, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
Ekta hi param dharma hai, isse bada na koi.
On vient d'entendre la formation Lamo Mali, qui comprend M. Toumani et Sidiki Diabaté.
Merci.
Avec une pointe d'humour, vos enfants gâcheront toujours vos vacances, qu'on se le dise. Avant même que vous ne puissiez dire « ouf, l'été est terminé », notre collaboratrice Léa Streliski revient sur ses vacances et probablement les vôtres. Chaque fois et tous les jours, vos enfants gâcheront toujours vos vacances. D'abord, il y en a un qui va tomber malade. Au début, vous ne saurez pas ce qu'il a. Vous allez le regarder de travers, comme Alain Gravel à l'émission Enquête. Vous allez vous demander, est-ce que je l'amène chez le médecin ou je ne l'amène pas chez le médecin? Mais vous ne serez pas chez vous. Alors, vous n'aurez pas votre circuit habituel. Vous allez donc faire le 8-1-1. Là, l'infirmière va répondre à vos questions. Vous serez rassuré, mais pas vraiment avancé. Alors vous allez l'emmener à la pharmacie pour que quelqu'un le check. Le pharmacien va vous donner une crème, vous allez en mettre sur le truc, donner du Tylenol et prier pour que ça se passe. Ensuite, ils vont avoir faim, ils vont avoir très faim, ils vont avoir toujours faim, vouloir des snacks, une quantité anormale de collation en permanence, sauf quand ils vont s'asseoir devant leur assiette. Là, ils n'auront pas faim, ils ne voudront pas manger, ça ne les intéressera pas. Ils voudront retourner jouer au truc auquel ils n'avaient pas pensé quand ils se plaignaient qu'ils n'avaient rien à faire, mais qui semble fascinant maintenant qu'il faut être à table. Ils vont être de mauvaise humeur, ils vont se battre avec leurs frères et leurs sœurs, ils vont crier « Arrête !» de toutes les forces. et se donner des tapes et des coups de pied. Ils vont pleurer, se chicaner, se répéter. C'est moi qui l'avais, en parlant d'un cossin qui est soudainement primordial parce que l'autre l'a pris. Ils vont assassiner vos siestes, toutes vos siestes. Ils vont tuer le silence avec des cris que vous ne saviez même pas possibles ou en faisant tomber des choses, comme l'intégralité d'une boîte de céréales. Et quand vous allez vous lever pour voir ce qui se passe, il ne se passera rien et ça ne sera la faute de personne. Personne n'aura fait le dégât, mais quelqu'un va devoir le ramasser et cette personne sera vous. Mais ils vont vous aimer. Ils vont vous aimer plus fort que vous puissiez l'imaginer. Ils vont vous aimer dans votre chair. Ils vont vous aimer avec leurs mini-bras et leurs derrières de tête parfaits. Ils vont vous aimer en riant et de ces rires joyeux et surprenants que seuls les enfants savent faire. Ils vont être heureux et libres et ne pas savoir que pendant qu'ils galopent et se baignent sur fond de lumière qui baisse, ils vivent les moments les plus précieux de l'enfance. Vous allez les envelopper dans une serviette et les serrer contre vous, et ils voudront se défaire de l'étreinte parce que l'été sera en train d'attendre. L'été avec ses grenouilles qu'il faut attraper et ses bulles qu'il faut souffler, et tout ce sable qu'il faut mettre dans un seau. L'été sera en train d'attendre, et avant même que vous ne puissiez dire « ouf », il sera déjà passé. Vos enfants se seront minutieusement appliqués à gâcher vos vacances, et ça vous fera pleurer tellement c'était beau. Merde.
Et quand j'étais enfant, justement, je me souviens avoir fait partie de ceux qui ont été un peu traumatisés par le film Les Dents de la Mer. Je ne sais
pas si ça a été
votre cas.
Oh oui.
Eh bien, comment ne pas y penser plutôt ? Je vous donne la recette, la technique pour battre un requin. Avec les poings, c'est ce qui s'est passé à main nue à un homme récemment attaqué par un requin à Cape Cod et qui a raconté avoir réussi à échapper au puissant prédateur en lui assénant un coup de poing. William Lytton a expliqué qu'il nageait à quelques mètres du rivage le 15 août lorsqu'il a ressenti une vive douleur violente à la jambe gauche et réalisé qu'un squale l'avait pris pour proie. Le neurologue, âgé de 61 ans, a affirmé qu'il avait frappé le requin aux ouïes avec sa main gauche, un geste qui lui a probablement sauvé la vie, mais lui a valu aussi quelques tendons déchirés. Le résident de Scarsdale, dans l'état de New York, arbore maintenant un plâtre au bras et à la jambe gauche, de même que quelques bandages. D'abord terrifié, M. Lytton a dit ne pas avoir eu vraiment le temps de réfléchir. Une fois libéré du requin, il a rapidement regagné la plage où il a crié pour qu'on lui vienne en aide. Si le sexagénaire ne se rappelle pas s'être beaucoup éloigné de la terre ferme, les autorités ont précisé qu'il se trouvait à environ 27 mètres du large de la plage de Longnook Beach à Truro, dans le Massachusetts. D'autres baigneurs ont secouru William Lytton, qui a été transporté en hélicoptère jusqu'à un hôpital de Boston, où, selon ses dires, il a passé 2 jours dans le coma, subi 6 interventions chirurgicales et reçu 6 litres de sang en transfusion. Monsieur Lytton doit maintenant séjourner 2 semaines dans un centre de réadaptation avant de rentrer chez lui. La présence de requins a entraîné la fermeture de plusieurs plages dans la région de Cape Cod depuis 2 semaines. Ce sont les requins aux États-Unis, ce sont les dauphins en France. Décidément, la mer est agitée en ce moment.
La hausse de CO2 dans l'atmosphère réduit les qualités nutritives des aliments. C'est l'agence France Presse qui nous en parle. L'augmentation du CO2 dans l'atmosphère d'ici 2050 va réduire les qualités nutritives de nombreuses cultures, ce qui pourrait créer des carences en zinc, en fer et en protéines chez des millions de personnes, avertit lundi une étude dans Nature Climate Change. Selon les chercheurs de l'université Harvard qui se sont penchés sur 225 aliments différents, la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui pourrait atteindre 550 parties par million, ppm qu'on dit, aux alentours de 2050 contre 405 ppm en 2017, devrait réduire de 3% à 17% la teneur en fer, en protéines, en zinc de nombreuses cultures de base. Cette baisse de la qualité nutritive des aliments se traduirait par une carence en zinc chez 175 millions de personnes, mais aussi une carence en protéines chez 122 millions de personnes d'ici 2050, tout en exacerbant les carences existantes chez plus d'un milliard de personnes. Ces personnes s'ajouteraient aux 662 millions souffrant déjà de carences en protéines, aux 1,5 milliard ayant une carence en zinc et aux 2 milliards ayant une carence en fer dans le monde. Les carences en zinc affectent le système immunitaire, les enfants risquant alors plus d'attraper des maladies, comme des infections respiratoires, la malaria ou des maladies diarrhétiques. Diarrhéiques, explique le chercheur Matthew Smith. Un déficit en fer peut causer de l'anémie ou augmenter la mortalité lors des accouchements, poursuit-il. Le manque de protéines, souvent couplé à une sous-alimentation, peut se traduire par des retards de croissance chez les enfants. Les régions les plus menacées sont l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et l'Asie, avec des pays comme l'Inde, l'Indonésie ou encore la Chine, selon cette étude, ce qui s'explique par des habitudes alimentaires dans ces pays. Les végétaux jouent un rôle essentiel dans l'apport de zinc, de fer et de protéines dans l'alimentation. Parmi eux, le blé, le riz et le maïs contribuent environ aux deux tiers des apports en protéines, en zinc et en fer dans le monde. Or, le blé et le riz sont plus sensibles à l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, quand le maïs est clairement moins impacté, explique Matthew Smith. Les populations les plus pauvres sont aussi les plus exposées, car les plantes constituent une part plus importante de leur alimentation, tandis que les plus riches complètent leur régime par de la viande. Les décisions que nous prenons tous les jours, comme nous chauffons nos maisons, ce que nous mangeons, comment nous nous déplaçons, ce que nous achetons, rendent nos aliments moins nutritifs et mettent en péril la santé des autres populations et des générations futures, avertit Samuel Myers, co-auteur de l'étude citée dans le communiqué.
Alors, la Cité du vin passe le cap du million de visiteurs de l'agence France Presse à nouveau, mais à Bordeaux. La Cité du vin de Bordeaux a passé mercredi le cap du million de visiteurs depuis son ouverture en juin 2016, a annoncé mardi l'exploitant de ce site culturel et touristique. Au total, pas moins de 176 nationalités sont venues découvrir les cultures et les civilisations du vin, dont une majorité de Français quand même, 70%. Le reste, ce sont des Britanniques, Américains, Espagnols, Suisses, Allemands, Italiens. Selon un sondage réalisé par Cage Business School, 20% de visiteurs ne résidant pas dans la métropole bordelaise ont indiqué être venus à Bordeaux pour la Cité du vin. Le millionième visiteur, un Breton, a reçu notamment un laissez-passer annuel et un dîner au restaurant panoramique de la cité le 7. En plus de l'exposition permanente, deux expositions temporaires sont organisées chaque année. C'était donc la Cité du vin passe le cap du million de visiteurs.
Il y a le soleil, jamais pareil. C'est un gros câlin pour guérir nos chagrins.
Ton amour, il y a les étoiles tombées dans nos yeux. Jamais malheureux. Comme un gros câlin pour guérir nos chagrins.
L'été d'avoir 15 ans, c'était Claude Dubois, accompagné de Natacha Saint-Pierre.
Et nous sommes de retour. Je vais vous parler d'un événement qui est déjà à la base peu banal, mais qui en plus a vécu une petite affaire, puisque je vous parle alors de pigeons voyageurs, ça c'est déjà peu courant, de courses de pigeons voyageurs, ça existe en Asie, et de pigeons voyageurs qui trichent pendant une course, c'est possible aussi. L'appât du gain était trop fort. Deux Chinois ont fait prendre un train à grande vitesse à leurs oiseaux afin de remporter une course de pigeons voyageurs, mais les arbitres ne se sont pas laissés pigeonner. Les animaux ont décroché les quatre premières places de la compétition, permettant aux tricheurs d'empocher une récompense de plus d'un million de yuan, soit environ 190 000 dollars canadiens, rapporte le quotidien Legal Daily. Cependant, les chronos incroyables des pigeons ferroviaires ont alerté les organisateurs de la course. Les deux hommes ont bien essayé de camoufler leurs méfaits en tuant les animaux, les pauvres, qui dépassaient en plus l'âge limite d'un an, et en renonçant à leur récompense. Mais ils ont été rattrapés par la justice et elle les a condamnés à 3 ans de prison avec sursis pour fraude. Le tribunal a également infligé une amende, pas avec sursis celle-là, de 30 000 yuan, soit environ 5 700 dollars canadiens à l'un des fraudeurs. La course s'était disputée en avril 2017 entre la ville de Shangqiu et la province du Henan et Shanghai, distante d'environ 750 km. Les deux acolytes avaient préparé leur coup un an à l'avance en nourrissant les volatiles près des points d'arrivée et de départ afin de les familiariser avec les lieux. Après le coup d'envoi, les oiseaux n'ont ainsi pas volé directement vers Shanghai, mais vers l'endroit de la province du Henan où ils avaient été nourris. Les fraudeurs les ont alors placés dans des cartons de lait et transportés en train jusqu'à Shanghai où ils ont été relâchés près de la ligne d'arrivée, finissant aux premières places. Les courses de pigeons sont populaires en Chine, notamment auprès des personnes âgées. Ces volatiles peuvent atteindre une vitesse de pointe de plus de 100 km/h en cas de vent très favorable et certains, eh bien, trichent.
Thank you.
Nous allons parler de Colin Kaepernick, qui est le visage d'une campagne publicitaire de Nike, petite capsule sport. L'ancien carrière de la NFL, à l'origine en 2016 du mouvement de boycottage de l'hymne américain, a été choisi pour être le visage de la dernière campagne publicitaire de Nike. Sur son compte Twitter, Kaepernick a publié lundi le visuel montrant en gros plan son visage en noir et blanc avec le message « Croyez en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier ». Kaepernick est l'un des visages de cette campagne qui coïncide avec le 30e anniversaire du célèbre slogan « Just do it » de la marque à la coche, aux côtés de la reine du tennis féminin Serena Williams et de la vedette de la NBA LeBron James. Depuis qu'il a lancé son mouvement pour protester contre les violences policières envers les Afro-Américains en posant un genou par terre lors de l'hymne américain, Kaepernick est devenu une personnalité controversée aux États-Unis, célébrée par les uns et détestée par les autres, notamment par le président Donald Trump, entré en guerre ouverte l'automne dernier contre les joueurs protestataires. Kaepernick n'a pas retrouvé d'équipe depuis l'expiration de son contrat avec San Francisco début 2017 et a attaqué en justice la NFL qui l'accuse de collusion pour l'empêcher de poursuivre sa carrière. Il est sous contrat depuis 2011 avec Nike qui, à la différence de la plupart de ses autres partenaires, n'a pas résilié son contrat de publicité. Nous croyons que Colin est l'un des sportifs les plus charismatiques de sa génération qui utilise la puissance du sport pour faire bouger le monde, a expliqué sur ce site internet de la chaîne ESPN Gino Fisanotti, dirigeant de Nike.
Le prix des billets d'avion reprend de l'altitude. C'est Jean-François Coderre qui nous signe cet article. Pour la première fois depuis 2013, le prix moyen d'un billet d'avion a augmenté au pays en 2017, selon un relevé de Statistique Canada des prix des plus importants transporteurs au pays, Survol. Le billet d'avion moyen coûtait 232,50 $ en 2017 selon Statistique Canada, en excluant bien sûr les taxes et les frais d'utilisation comme les frais d'amélioration aéroportuaire et les ajouts liés au prix du carburant. C'est une hausse de 2% par rapport à 2016, le prix était de 249 $ en 2013. Ce sont surtout les vols internationaux qui sont responsable de cette hausse. Le prix moyen des billets de ce genre a augmenté de 2,5% à 299,10 $, alors que celui des vols intérieurs a très peu bougé, passant de 167,50 à 168,30 $. La croissance du trafic international, la stimulation de l'économie et la hausse des prix du carburant à turbomoteur figurent parmi les facteurs qui ont peut-être contribué à la croissance des tarifs internationaux, estime Statistique Canada dans son rapport. Ces indicateurs, tous en hausse en 2017, le sont aussi en 2018, ce qui laisse présager que la moyenne des prix des billets est aussi appelée à monter pour 2018. Le trafic aérien est en forte hausse partout dans le monde. La demande en passagers kilomètres payants a augmenté de 5,5% en Amérique du Nord en juin dernier par rapport à juin 2017, selon l'Association de transport aérien international, le IATA, un organisme international établi à Montréal. Aéroport de Montréal rapporte pour sa part une augmentation de 7% du nombre de passagers pour les 6 premiers mois de l'année. Depuis le début de l'année 2016, le prix des carburants pour avions ont continuellement progressé. Ils sont toutefois encore loin des sommets du début de la décennie. Un vol intérieur à partir de Montréal coûtait 160,80 $ en moyenne, 160,90 $ en moyenne en 2017, toujours hors taxes et hors frais d'utilisation. Soit 0,70 $ de moins que l'année précédente. Le métropole fait partie des trois villes canadiennes parmi 9 sélectionnées où cette donnée a reculé. Il en coûtait par ailleurs plus cher pour partir de Vancouver, Toronto, Winnipeg ou Calgary. L'application d'Air Canada prise pour cible, les quelques 1,7 million d'utilisateurs de l'application mobile d'Air Canada ont été invités hier à modifier leur mot de passe à la suite d'une tentative d'intrusion dans ces systèmes détectés par le transporteur. Selon Air Canada, les tentatives ont eu lieu entre le 22 et le 24 août dernier et concernent environ 20 000 de ses utilisateurs dont des informations personnelles auraient pu être exposées. Par mesure de précaution, on a étendu l'exigence de modifier le mot de passe à tous les utilisateurs. En plus du nom, de l'adresse courriel et du numéro de téléphone, l'application d'Air Canada peut entreposer, selon les utilisateurs, des informations plus sensibles comme le numéro de passeport, le numéro aéroplan ou le numéro d'identification du programme Nexus. L'entreprise assure toutefois, en se basant sur des informations fournies par le gouvernement canadien, qu'il est impossible d'obtenir un nouveau passeport simplement à partir de ces informations.
Et partons au Royaume-Uni à présent, où le Royaume-Uni qui a été dans l'actualité cette dernière année, beaucoup avec le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Et ce Brexit, s'il n'est pas complètement acté encore, pose pas mal de problèmes à différents niveaux, notamment au niveau des banques. Et pas n'importe quelle banque, les banques de sperme. Avec le Brexit, risque d'une pénurie de sperme au Royaume-Uni, c'est tiré du soleil. Une sortie de l'Union européenne sans accord risque de mettre en difficulté les couples britanniques qui font appel aux dons de sperme pour procréer car ils ne pourront plus faire appel aux banques de sperme européennes, a souligné le gouvernement. Dans une note technique publiée il y a 2 semaines, destinée à préparer les entreprises et la population aux conséquences d'un divorce éventuellement sans accord, le gouvernement britannique souligne que le pays avait importé quelque 3000 échantillons de sperme du Danemark l'an dernier et 4000 des États-Unis. Londres a aussi importé quelque 500 ovules et embryons de pays européens. Il s'était préparé donc. Or, si les discussions entre Londres et Bruxelles échouent, la législation européenne relative au sang, tissus et cellules humaines ne s'appliquera plus pour le Royaume-Uni, a indiqué le gouvernement. Avec pour conséquence la nécessité pour les banques de sperme britanniques de nouveaux accords avec les établissements compétents. Pour compenser, le ministère de la Santé souligne que les entreprises disposant d'une licence pourront faire appel à des importations de pays tiers. Sans rassurer, dans un pays où le don de sperme ont drastiquement diminué depuis que les donneurs ont perdu le droit à l'anonymat par une loi en 2005. Selon Geta 24, directrice de la clinique spécialisée dans les questions de fertilité, Harley Street Fertility Clinic, les couples ayant besoin de dons de sperme commencent à paniquer, car un changement de législation intervenu aux États-Unis signifie que les importations en provenance de ce pays peuvent prendre jusqu'à 3 mois, quand il suffit d'une semaine depuis le Danemark. Les formalités administratives supplémentaires induites par un Brexit sans accord pourraient en outre conduire à une hausse des coûts pour les entreprises qui sera répercutée sur les couples. L'incertitude qui entoure un tel scénario ne fait qu'ajouter au stress qui accompagne déjà ce traitement, a-t-elle regretté sur la BBC.
Il va y avoir de la contrebande de sperme.
un marché parallèle, sûrement.
Mort du pianiste de jazz Randy Weston, géant de la musique classique africaine-américaine. C'est un texte par Priscille Lafitte. Randy Weston, immense pianiste de jazz, est mort samedi 1er septembre à Brooklyn aux États-Unis à l'âge de 92 ans après une vie passée à rapprocher les musiques américaines et africaines. Le parcours de Randy Weston débute dans les pas des grands pianistes afro-américains qu'il admirait tant, Duke Ellington et Thelonious Monk. Randy Weston a même joué avec le saxophoniste de légende Coleman Hawkins. Pianiste de bebop, comme quasiment tous ses confrères dans les années 1950, il laisse de cette époque quelques standards de jazz dont High Fly. Randy Weston était doté d'un physique de géant. Il mesurait 2 mètres de haut et ses genoux ne passaient pas sous le piano, lui donnant cet air de jouer en concert sur un petit instrument d'enfant. Il jouait et improvisait avec une énergie malicieuse, réjouissante, contagieuse, que ce soit au festival de Marciac en 2010 ou encore au printemps dernier au Duc des Lombards à Paris, au festival de Nice durant l'été. D'autant qu'il s'associait souvent avec le contrebassiste Alex Blake, qui se lançait dans les solos avec une énergie vorace et espiègle telle qu'on jurerait qu'il allait casser ses cordes à chaque note. C'était un jazz joyeux, joueur, jamais à court d'un bon tour rythmique. Randy Weston assurait à la main gauche une ligne de basse percussive, solide comme du blues, une ligne rythmique qu'il s'amusait à brusquer, à syncoper, à suspendre, comme pouvait le faire avant lui, Theolinicius Monk. Quand j'ai entendu Monk, j'ai entendu la magie de l'Afrique dans son jeu, disait-il en interview à Jazz Hot. Si Randy Weston se différenciait des autres beboppers de son époque, ce style de jazz rapide et savant qu'il s'était imposé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il recherchait une douceur et une harmonie propres à lui. Il voulait raconter une histoire. Son but était d'alléger les soucis par la musique, de faire rire aussi. Il était en cela un conteur, un guérisseur à la façon des griots africains. Mais Randy Weston n'était pas qu'un excellent pianiste de jazz, c'était aussi un penseur de la musique, un théoricien du jazz, qui a très tôt compris que cette musique, née aux États-Unis au tournant du XXe siècle, devait à l'Afrique. Son père tenait un restaurant, invitait de nombreux groupes de jazz, et c'est lui qui l'a poussé à étudier, à comprendre les racines du jazz. Dès la fin des années 1950, il s'associe avec une tromboniste, Mel Balliston, une des rares femmes instrumentistes à avoir percé dans ce monde masculin du jazz. Elle a compensé pour Randy Weston et signé l'arrangement de plusieurs de ses disques, notamment Uhuru Africa. Uhuru signifie « liberté » en Swahili. Cet album, sorti en 1960, est interdit de diffusion sur les radios sud-africaines au temps de l'apartheid. À l'époque, on a eu beaucoup de problèmes. On me demandait ce que je faisais avec l'Afrique, racontait-il. L'album est mal reçu, mal compris dans une Amérique ségrégationniste, où ce qui est africain est regardé de haut, où revendiquer ses origines ancestrales est risqué. Lui va renverser le point de vue. Il démontre que le jazz n'est pas là pour ambiancer une Amérique blanche, mais qu'il raconte la grande histoire de l'Afrique. Comme Duke Ellington, Randy Weston n'aimait pas le mot jazz. Il préférait parler de musique classique africaine-américaine. Il voyait la musique africaine comme une grande famille, dont le jazz serait l'un des membres. Que vous l'appelez spirituals, gospels, reggae, hip-hop, le nom que vous voulez, sans la pulsation africaine, vous n'avez rien. Randy Weston a creusé aux sources de cette africanité en voyageant au Nigeria par deux fois au début des années 1960, en croisant dans l'album High Life, selon son savoir jazzistique, avec les rythmiques d'Afrique de l'Ouest, en précurseur de fusion afro-jazz que portera Fela Kuti par la suite dans l'afrobeat. Cette quête des racines africaines se poursuit lors d'une longue tournée dans 40 pays d'Afrique en 1967, à la suite de quoi il s'installe plusieurs années au Maroc dans la ville de Tanger. C'est là qu'il tombe en extase devant la musique Gnawa, cette musique soufie issue de l'esclavage noir au Maroc et dont les descendants sont établis à Essaouira et à Marrakech. Les années 1980 l'amènent à reconnaître un regain d'intérêt en Europe et sur les scènes de jazz françaises. Il écrit un livre intitulé African Rhythms, publié aux éditions Présence Africaine et continue d'enregistrer. On compte parmi ses plus beaux albums le coffret de Spirit of Our Ancestors. En 2016, il se lance dans un projet très ambitieux pour Grand Orchestre African Nubian Suite, la suite nubienne du nom de cette région du Nil située en Haute-Égypte et Nord-Soudan, où avait proposé l'une des premières civilisations de l'humanité. Randy Weston aimait dire qu'il était membre de la grande famille royale des musiciens, porteur de son relié aux étoiles et à la nature, et citait souvent un maître soufi qui dit que la musique précède tout.
Chasse au trésor pan-canadienne. Chasseurs de trésors, sortez vos cartes. Pas moins de 100 coffres ont été cachés le long du sentier transcanadien pour souligner le premier anniversaire de ce grand lieu d'un océan à l'autre. De Terre-Neuve à la Colombie-Britannique en passant par le Yukon et le Québec, ces coffres au trésor contiennent des cadeaux pour les premiers à les dénicher. Un vaste concours est aussi organisé pour tous ceux qui trouveront un ou des coffres, premiers ou pas. Des indices sont dévoilés chaque semaine sur le site de la chasse au trésor, et ce, jusqu'au 30 septembre. Le concours se poursuit jusqu'au 31 octobre. Puis, on va parler des touristes de retour en Turquie. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, a dévoilé cette semaine son rapport final sur le tourisme international en 2017. Surprise, la Turquie s'est hissée au 8e rang des pays les plus visités avec 37,6 millions de visiteurs étrangers, une hausse de 24,1% par rapport à 2016. L'année 2018 s'annonce encore plus prometteuse. Osman Ayik, président de la Fédération des hôteliers de Turquie, a confié à l'agence de presse étatique Anadolu que le pays avait reçu 11,5 millions de touristes au cours des 5 premiers mois de l'année 2018. La récente chute de la livre turque, qui profite aux touristes étrangers, pourrait aussi donner un coup de fouet au secteur touristique mis à mal en 2016 par une série d'attentats et un putsch manqué. Et puis enfin, les 10 destinations vedettes de 2017. Toujours selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, voici le palmarès des 10 pays qui ont reçu le plus de visiteurs internationaux l'an dernier, avec en premier la France, 86,9 millions de visiteurs. L'Espagne ensuite avec 81,8 millions, les États-Unis 75,9 millions, la Chine 60,7 millions, l'Italie 58,3 millions, le Mexique 39,3 millions, le Royaume-Uni 37,7, la Turquie 37,6, l'Allemagne 37,5, la Thaïlande 35,4, ça ce sont les 10 premiers. Et à titre de comparaison, le Canada a accueilli 20,8 millions de visiteurs, toujours selon l'OMT. Voilà pour les petites nouvelles.
Et si dans ce top 10 ne figurait pas le Japon, c'est peut-être à cause du manque de professeurs d'anglais, donc du manque de personnes parlant assez bien anglais pour accueillir les touristes. Mais c'est plus petit peut-être aussi. Mais ils ont la solution. Bientôt, des robots profs d'anglais dans les classes japonaises. Des robots pour apprendre l'anglais aux enfants. Le gouvernement japonais a décidé de se tourner vers les technologies pour tenter d'intéresser les élèves aux langues étrangères dans un archipel peu polyglotte. Le projet pilote sera mené dans 500 écoles, un gros projet pilote, à partir de la rentrée scolaire qui ouvre là aujourd'hui, et un budget de 250 millions de yens, soit près de 200 000 euros. Les robots qui sont déjà sur le marché disposent de plusieurs fonctions. Par exemple, ils peuvent vérifier la prononciation de chaque étudiant, a-t-il souligné. La pertinence de cette méthode peut sembler discutable, mais les établissements de l'archipel peinent à trouver des instituteurs compétents en anglais et n'ont pas suffisamment d'argent pour recruter des assistants dédiés à cette matière. D'autres mesures sont prévues, comme l'utilisation de tablettes ou encore la mise en place des leçons en ligne avec des professeurs, des vrais, en chair et en os, cette fois, dont l'anglais est la langue maternelle, a ajouté le représentant du ministère. Certaines écoles japonaises ont déjà pris les devants et recruté des robots en prévision de l'entrée en vigueur en 2020 de nouvelles règles rendant obligatoire l'enseignement de l'anglais à partir de l'âge de 10 ans contre 12 ans aujourd'hui.
Un audio guide pour découvrir les parcs montréalais. L'île de Montréal compte de beaux grands parcs nature où il fait bon se balader. Un organisme à but non lucratif, le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, le GEP, G-U-E-P-E, fournit un motif supplémentaire pour les visiter. Celui-ci vient de créer des audio guides d'interprétation pour 5 de ces parcs nature, le Cap Saint-Jacques, Pointe aux Prairies, Bois de Liesse, Île de la Visitation et de la Merci, Île Perry. Il suffit d'aller sur le site de l'organisme pour les télécharger. GEP suggère des circuits de randonnée pouvant durer de 1h et quart à 2h à des endroits bien définis et marqués par un panneau. Les marcheurs peuvent s'arrêter et écouter l'audio guide pour en connaître un peu plus sur l'histoire du parc et sa biodiversité. En suivant le circuit de l'île de la Visitation, on peut ainsi apprendre d'où vient le nom de Sceaux au Récollet et savoir où l'on peut observer l'étrange lépisosté osseux, un long poisson. et le bihoreau gris, un bel oiseau échassier. Voilà, c'était l'audio guide pour découvrir les parcs montréalais.
Ce qui conclut cette émission, après, eh bien, comme d'habitude, un tour de monde. Nous avons été un peu dans tous les pays, dans toutes les assiettes aussi, grâce à vous.
Dans
tous les verres, surtout. avec votre alcool de tomate, bien intéressant. Merci pour cette émission. Merci pour vos sujets.
Merci, Louis.
On se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Charles Algan et Yves-Olivier. Merci également à Maurice Bolduc, de l'autre côté de la vitre, pour la mise en onde et les choix musicaux. Bonne journée à tous.
À bientôt.
À bientôt.